Salut, c'est Dr Schnock. Je vous invite à un petit voyage dans le temps pour découvrir l'histoire d'une musique, d'une chanson, d'un musicien ou d'un passionné de musique. Dr Schnock raconte, c'est aussi disponible en podcast sur le www.radio-mdm.fr. Aujourd'hui, Michel Magne et le château d'Hérouville, troisième et dernière partie. Né en 1930, Michel Magne fut d'abord pianiste et compositeur de musique contemporaine. On l'a vu lors des émissions précédentes, dans les années 50, il a composé de nombreuses œuvres très différentes, dont plusieurs symphonies, des concertos et des suites pour piano. Des années 50 aux années 60, Michel Magne s'est plusieurs fois produit en concert pour des prestations de musique contemporaine plutôt étonnantes, avec construction sonore ou électronique, et des performances parfois provocatrices.
Il m'est arrivé de faire des concerts de provocation, et je le dis, et j'espère refaire des concerts de provocation, parce que dans la provocation, il y a recherche, il y a stimulation, il y a ambition, il y a création, il y a invention. Et tout ça, bon, vous amène quelquefois à passer les limites. Et de temps en temps, ben, on va un peu trop loin. Bon.
Comme la musique contemporaine ne nourrissait pas vraiment son homme, à partir des années 60, Michel Magne s'est spécialisé avec succès dans la composition de musique de film. Et 12 ans plus tard, il en est à sa 75e bande-son. Il a notamment composé toutes les musiques des films réalisés par son ami Jean-Yann durant cette période. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Les Chinois à Paris, et entre les deux, Moi y en a vouloir des sous. Ce film dénonçait tous les accapareurs financiers de la société sur fond de manifestations et de crise sociale. Un script, hélas, toujours d'actualité.
J'ai essayé d'être motard, mais j'ai pas été pris, j'étais trop petit. Ah oui, trop petit. Nous autres, les flics de la rue, on peut pas nous voir. Tandis que les motards, vous êtes tous là, même vous, là, un motard, bouche bée d'admiration. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils savent, vous foutre rien. Ça ira mieux quand je serai à la retraite.
Mais dites donc, c'est pas pour longtemps, parce que c'est pas 65 ans chez vous.
Eh bien, heureusement, dites, parce qu'avec tout ce qu'on se tape, en ce moment, on vieillit avant l'âge. Hein. Remarquez, quand je dis avec tout ce qu'on se tape, c'est surtout nous qui tapons.
C'est vrai que vous y allez pas de main morte, hein, là, ça y va bien.
Vous rigolez ou quoi? On nous prend pour des brutes, mais on sait même pas contre qui on est. Aujourd'hui, la manifestation, il y a de tout. Les gauchistes, l'extrême gauche, l'extrême droite, allez vous y reconnaître. Non, le problème pour nous, c'est le problème de tout le monde. Pas faire d'heures supplémentaires. Aussi le soir, quand il y a la manif, on s'arrange avec le brigadier pour pas faire d'heures supplémentaires. Hop, on fait une petite charge, deux ou trois coups de matraque, on en embarque une vingtaine et on rentre chez soi à l'heure.
Durant cette douzaine d'années de composition pour le cinéma, Michel Magne a travaillé avec plus de 40 réalisateurs différents, de Abel Gance à Georges Lautner, de Robert Bresson à Yves Allégret, de Julien Duvivier à Roger Vadim, mais aussi avec Costa Gavras ou Terence Young. Michel Magne a même créé en 1962 la bande-son du film de Gene Kelly, Le Clochard de Belleville, ce qui lui a valu une nomination à Hollywood aux Oscars 1963 pour la meilleure musique. Thank you. Fin 1962, justement, Michel Magne avait acheté le château d'Hérouville, situé à 50 km de Paris, dans le Val d'Oise. On l'a vu la dernière fois, de cet édifice complètement délabré, il a réussi en quelques temps à en faire un lieu de travail exceptionnel pour lui et ses compositions, mais aussi pour ses amis musiciens.
Le fait d'avoir un studio d'enregistrement chez moi, c'est vraiment idéal pour pouvoir travailler et pour pouvoir transcrire tout de suite mes compositions. En faire un objet, c'est-à-dire je pense une musique, et bien j'en fais un objet tout de suite. En plus, je décentralise parce que ce studio-là n'est pas fait pour moi uniquement. Attention, c'est un studio commercial que j'ai fait. C'est un studio d'enregistrement qui est très vaste et qui est très moderne, c'est-à-dire qu'il a tous les avantages d'un studio aussi perfectionné que tous les plus grands studios de Paris, mais en plus, il est le calme de la campagne. Et en plus, des chambres d'écho, par exemple, que j'ai fait, qui sont absolument uniques parce que j'ai beaucoup de place là-bas.
Très rapidement, le château d'Hérouville est devenu le lieu à la mode des rendez-vous épicuriens du tout Paris du spectacle. Un endroit de fête grandiose, où le champagne coule à flot. En 1969, Michel Magne crée sa propre société d'enregistrement et il accueille désormais peu à peu dans son château tout ce que le monde du rock et de la pop compte de musiciens et de vedettes. En quelques années, le château d'Hérouville va devenir un lieu mythique de l'histoire de la pop musique. Le groupe T-Rex, par exemple, y viendra à plusieurs reprises, notamment pour enregistrer l'album The Slider en 1972, mais également ceci la même année. T-Rex, Children of the Revolution. Effectivement, Michel Magne a déclenché au château d'Hérouville une véritable révolution pour l'époque, en y créant le premier lieu de résidence d'artistes en France, le deuxième au monde, et le studio d'enregistrement le plus branché de la planète. À partir de 1972, deux studios étaient à disposition dans le château, le studio George Sand et le studio Chopin, avec un personnel technique de haut niveau, dont Dominique Blanc-Francard à la console, et Andy Scott, l'ancien ingénieur du son d'Elton John. Le château comprenait également une vingtaine de chambres, différents salons, des salles de jeu et de repos, au cœur d'un parc de 2 hectares avec piscine et tennis. Les artistes pouvaient y résider et créer pendant des semaines, fignoler des arrangements, préparer des concerts ou simplement répéter dans une totale liberté. On l'a dit, une véritable révolution pour l'époque. Durant ce début des années 70, des gens venus d'univers musicaux aussi différents que Buddy Guy, Bernard Lubat, le groupe Magma, Johnny Hallyday, Alan Stivell, Mike Oldfield, Pink Floyd ou Bernard Lavillier ont vécu à Hérouville cette expérience unique et nouvelle pour l'époque. Cat Stevens, lui-même, y est venu plusieurs fois peaufiner de nombreux titres, dont Angel Sea. Au château d'Hérouville, les artistes pouvaient enregistrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans des conditions techniques exceptionnelles. En effet, Michel Magne était constamment à l'affût de toutes les évolutions en rapport avec le son, des dernières consoles aux premiers synthétiseurs. Peu à n'importer le prix. Les ingénieurs du son, eux, étaient censés être disponibles 20 heures sur 24. Quant à l'accueil, il était toujours digne des plus grandes stars. restauration, hébergement, détente, environnement, technique. Pour Magne, rien n'était jamais une question d'argent. Durant cette période, quelques albums mythiques ont commencé à voir le jour à Hérouville, comme ceux d'Elton John en 1972, Honky Chateau en janvier, et puis en juin 72, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Il est à noter que dans l'histoire du rock et de la pop, seuls deux albums portent le nom d'un studio d'enregistrement. Abbey Road, des Beatles, en référence à leur studio londonien, et Honky Chateau, d'Elton John, en référence à Hérouville, bien sûr. Nous sommes donc désormais au milieu de l'année 1972. Michel Magne est épuisé par le rythme fou de cette double vie de directeur de studio d'une part et de châtelain truculent d'autre part, qu'il occupe 24 heures sur 24. Il a également envie de retrouver du temps pour composer. Mais il est aussi et surtout pris à la gorge financièrement par sa gestion désastreuse des lieux depuis 10 ans. Les impayés s'accumulent et les huissiers frappent à la porte.
Je voyais des huissiers arriver quand même régulièrement à la maison et on avait des Doberman, des gros chiens très gentils mais qui faisaient peur. J'avais la consigne de ne pas laisser rentrer les huissiers. Et je disais aux huissiers, non, de toute façon, mon chien, il n'aime pas les huissiers, je ne vous laisserai pas rentrer. Ils voyaient le Doberman, ils ne rentraient pas les mecs, hein, ils laissaient des papiers.
Les derniers temps du studio, ils voyaient arriver un mec qui sonnait, disait, oh là là, ça c'est un huissier ça, ça c'est un huissier ça. Alors, il mettait une blouse grise de jardinier, un vieux chapeau pourri, une fourche, il allait voir le mec directement en face, il dit, ah monsieur Mang, il n'est pas là, il est parti, il est pour le matin, il n'est pas là, il faut revenir dans un mois, et le mec il partait. Avec un aplomb incroyable, il dit, bon ben là on est tranquille pour un mois, puis il revenait.
Et là, je me suis dit quand même, c'est étrange. Il y a des huissiers qui viennent tout le temps, mais bon, moi, je ne connaissais rien à la vie administrative et à l'organisation de la société du château d'Hérouville. Bon, je le disais à la secrétaire de Michel, je disais, il y a des huissiers qui sont encore venus. Et à chaque fois, je les voyais parler à messe basse, chacun dans leur coin. Moi, je n'étais au courant de rien. Et là, je me suis dit, ah, il doit y avoir quand même un problème. Et quand il m'a dit, on va quitter la région, on va partir vivre à Saint-Paul-de-Vence, j'étais ravie. Mais là, il m'a dit que c'était plus possible, il pouvait plus rester, il avait envie de faire autre chose que de diriger un studio.
Après avoir longtemps cherché un repreneur potentiel pour sa société d'enregistrement, Michel Magne se résout finalement à vendre toutes ses parts, pour un franc symbolique, à Yves Chamberlain, le patron de son principal concurrent, le studio parisien Davout. Le passage de témoin est effectif le 30 juin 1972.
Nous, on était contents que le show continue. On avait envie que Magne s'en sorte. Il nous a dit, écoutez les amis, c'est trop compliqué, j'ai trop de dettes, j'ai trouvé une solution, le show va continuer, c'est Chamberlain d'avoue qui va s'en occuper, puis moi du coup, je ne ferai plus que de la musique. Ça, on était contents pour lui parce qu'on avait envie qu'il s'en sorte aussi. On les avait rendus fous, les studios parisiens. Il y a toujours une guerre de studios, mais surtout Hérouville, avec son côté inaccessible, que des chevelus qui fument les gros pets et qui font de la musique et qui font des doigts d'honneur à toute la profession, avait réussi en un an à éliminer leurs concurrents. Et ça, Chamberlain, il avait très mal pris. Il s'est juste dit, si je rachète Hérouville, il y a Blanc Francard et Andy Scott qui bossent dedans, j'ai pas du tout à rien à dépenser, je récupère un truc, j'ai Davout, c'est le meilleur studio de Paris pour la clientèle parisienne, Hérouville, le meilleur studio pour la clientèle étrangère, je suis roi du monde.
Malgré la vente des parts de sa société, Michel Magne reste tout de même propriétaire du château d'Hérouville. Mais pour plus de tranquillité et laisser le studio fonctionner sans lui, il s'installe en famille de l'autre côté du parc du château, dans la bergerie, rénovée en lieu d'habitation. Pour illustrer cette période, écoutons l'extrait d'une reprise de Jacques Brel, « Ces gens-là », par le groupe Ange, enregistré à Hérouville en 1973, dans un album au titre prémonitoire, « Le cimetière des Arlequins ».
Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, que jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qu'a marié la Denise, une fille de la ville enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air. Monsieur, on ne vit pas. On triche.
Dès son arrivée aux affaires, le nouveau patron des studios d'Hérouville, Yves Chamberlan, commence à appliquer des critères de gestion beaucoup plus stricts pour stopper l'hémorragie financière. Fini l'opulence, place à l'économie. Un fonctionnement et des horaires de travail beaucoup plus classiques. L'ambiance s'en ressent, évidemment, et devient rapidement nettement plus austère que par le passé. Les anciens habitués d'Hérouville s'en étonnent, comme David Bowie, qui le fait bruyamment remarquer quand il débarque à nouveau en 1973 pour enregistrer son album de reprise, Pin-Ups.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes to show. I've got Friday on my mind. Gonna have fun in my city. Be with my girl, she's so pretty.
En cette année 1973, au château d'Hérouville, les artistes de passage regrettent évidemment tous la gestion fastueuse des lieux du temps de Michel Magne. Mais cette évolution à la baisse n'empêche pas les enregistrements de se poursuivre. Et ce, sous la houlette de l'ingénieur du son Dominique Blanc-Francard. Par exemple, avec l'album Locomotive d'or de Claude Nougaro.
Nougaro arrive pour faire Locomotive d'or avec une tribu de musiciens percussionnistes africains d'un niveau très élevé qui jouaient super bien avec des instruments qui font un bruit énorme. Quand on les installe dans le studio, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Le son est juste horrible. Et coup de chance qui nous a sauvé la vie. On était en plein été. Et donc, je dis à mon producteur, on va les faire enregistrer dans la cour du château parce qu'il fait beau. Et là, on n'aura pas de problème de son. Et il me dit, t'es sûr? Oui, je suis sûr. On les sort dehors, on met des micros partout. Et effectivement, c'est une cour carré qui sonnait un peu comme un concert à l'extérieur, quoi. Et d'un seul coup, le son s'est mis à marcher. Nougaro était heureux, le groupe était heureux et on a fait un disque vraiment extraordinaire.
Locomotive d'or, aussi riche en pistons, aussi chargé d'essieux que de siècles un sépulcre. Locomo, 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 locomotive d'or. Croqueuse d'un charbon plus fruité, plus juteux que lait, la canne à sucre. Hé hé. Locomo, 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 locomotive d'or. Sans un soupçon de suie, sans une ombre de lucre, tu me fis visiter tes Congos, tes Gabons, tes Ubangi-Chari et tes côtes d'ivoire. De blancs éléphants m'aspergés de mémoire. Locomotive d'or.
C'est sur ce même album de Nougaro de 1973, Locomotive d'or, que l'on retrouve le morceau qui suit, entièrement enregistré, lui, dans le studio Chopin d'Hérouville.
Dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Danser dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté où les
pas, ne pèse pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé hé hé, oh bien, ça y est.
Mais bizarrement, à la fin de l'année 1973, le nouveau patron des studios d'Hérouville, Yves Chamberlan, baisse les bras. Après seulement 18 mois d'exploitation des lieux, il décide de se désengager de la société d'enregistrement d'Hérouville. En effet, il accuse Michel Magne d'avoir dissimulé une part de la vérité et de se trouver en réalité confronté à un passif financier double de celui annoncé au départ.
On avait envie que Magne s'en sorte, mais en même temps, le problème, c'est qu'il avait accumulé énormément de dettes, et je pense que la comptabilité n'était pas clean, quoi. Et du coup, Chamberlan, c'était quand même un rapace, avec tout le respect que je lui dois. Moi, j'ai essayé de travailler à Davout avant de travailler à Hérouville, et le mec, c'était quand même un brigand. Le seul truc, c'est quand il a vu qu'on lui avait vendu ça, je ne sais pas combien, à l'époque, 1000 francs, et qu'il y avait 4000 francs de dette, alors qu'il pensait qu'il y en avait que 500, il l'a très mal pris, et il a pourchassé Magne en imaginant que Magne avait volontairement essayé d'escroquer, ce qui n'est pas le cas.
En effet, Michel Magne est assuré d'avoir fourni une comptabilité, certainement maladroite, mais honnête. Et il reproche à Chamberlan de ne pas tenir ses engagements. Chamberlan revend quand même ses parts à Magne, à nouveau pour un franc symbolique. Il récupère tout son matériel et quitte le château. La société d'enregistrement est mise en faillite, tout le personnel est licencié. Et Magne et Chamberlan lancent tous les deux, l'un contre l'autre, une procédure judiciaire. Elle durera 11 ans. Juste avant ces événements, au cœur de l'année 1973, Elton John termine son aventure d'un an et demi à Hérouville avec un troisième album enregistré sur place en 18 mois. Album au titre lui aussi prémonitoire, Goodbye Yellow Brick Road.
When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't. Sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues.
Goodbye Yellow Brick Road, adieu route pavée d'or, c'est bien le cas. Pendant l'hiver 74, en l'absence d'exploitation commerciale, les studios d'Hérouville sont entièrement abandonnés. Le château s'est vidé, très rapidement les lieux sont squattés, détériorés et même en partie vandalisés. La piscine n'a plus d'eau, le parc est laissé à l'abandon. Et Michel Magne dans tout ça ? Eh bien, depuis début 1974, miné par la fin brutale de cette aventure, il est parti vivre en famille dans le midi de la France, à Saint-Paul-de-Vence. Il s'y adonne plutôt à la sculpture et à la peinture qu'à la musique. En partant, il avait prêté sa bergerie du château d'Hérouville à un vieil habitué des lieux, Jacques Higelin. Quelques années plus tard, en 1978, lorsque les studios renaîtront une première fois, Higelin reviendra à Hérouville pour enregistrer un double album. Les titres de ces deux albums colleront parfaitement avec l'ancienne image du château. Champagne pour tout le monde et caviar pour les autres. Au cœur de l'album Champagne se trouve un titre qui, lui, rappelle plutôt Michel Magne. Tête en l'air.
Sur la terre, des damnés solitaires, étrangers aux vérités premières, énoncées par des cons. Jamais toucher le fond de la misère. Et je crie et je pleure.
au fond de la cour.
Depuis son exil méridional, Michel Magne n'a en fait jamais renoncé à faire renaître une activité artistique à Hérouville. Toujours officiellement propriétaire du château, il multiplie pendant un an les recherches et les sollicitations et finalement, en juin 1974, Magne trouve un repreneur potentiel pour Hérouville en la personne de Laurent Thibault. Laurent Thibault, musicien cofondateur avec Christian Vander du groupe Magma, était venu plusieurs fois répéter au château du temps de sa splendeur. Laurent Thibault accepte de mettre de côté son activité de musicien et de se spécialiser désormais comme ingénieur du son. Il reprend l'activité du studio d'Hérouville avec l'objectif d'éponger en partie le passif de la société d'enregistrement. L'année dernière, en 2022, Laurent Thibault se souvenait de cette aventure.
Il se trouve que j'ai pu reprendre le château d'Hérouville. Michel Magne, cherchant un locataire gérant, suite à des problèmes personnels qu'il avait. Bon, évidemment, j'avais 25 ans, c'était une folie de faire ça. Bon, il y avait 8 millions de dettes à se prendre sur le dos. J'ai dit, mais Michel, il me dit, mais justement, si t'as rien, qu'est-ce que tu risques? Tu risques rien. Et puis, j'étais assez fou pour le faire. Et je me suis retrouvé derrière la console. Et paradoxalement, 6 mois plus tard, j'enregistrais Tom Jones, puis David Bowie, Iggy Pop et d'autres.
Effectivement, dès juillet 1974, les équipiers de Laurent Thibault ont entamé la réhabilitation des différents lieux d'Hérouville, et à la fin de l'année 1974, le studio d'enregistrement est remis d'aplomb. À partir de 1975, les artistes reprennent peu à peu la route du château. Ils y viennent notamment pour répéter dans des conditions techniques qui sont redevenues exceptionnelles. Véronique Sanson y fera plusieurs passages, fin 75 et début 76, pour peaufiner son album « Vancouver ». Si Laurent Thibault a permis à Hérouville de reprendre vie, en revanche, en ce qui concerne Michel Magne, la descente aux enfers se poursuit. En effet, la machine judiciaire le rattrape durant l'hiver 74-75 et la liquidation de ses biens est prononcée. Entre quelques rares musiques de films dont les droits d'auteur servent à rembourser le passif, Magne ne cesse de ruminer son échec personnel à Hérouville et reste affecté par une profonde dépression. Quand il apprend que le château lui-même pourrait finir par être saisi par la justice, il craque et il est interné quelque temps en psychiatrie.
Quand il est parti d'Hérouville, les droits d'auteur ont été bloqués, il ne percevait plus ses droits d'auteur. Donc quand on a vécu à Saint-Paul-de-Vence, Michel ne déposait plus sa musique à la SACEM. Il la faisait tricoter, tresser et il la mettait en bouteille. Et moi je lui disais, mais Michel, qu'est-ce que tu en as à faire de ce château, tu vois? On est heureux partout avec un papier, un crayon, tu peux vivre n'importe où, tu n'as pas besoin du château.
De son côté, l'ingé son Laurent Thibault continue de faire fonctionner le studio d'Hérouville. Il y accueille à nouveau de nombreux artistes, presque comme au temps héroïque du château, mais le petit grain de folie en moins. Elton John reviendra à Hérouville en 75, répéter son concert de Wembley. Et en 76, c'est David Bowie qui revient. Cette fois-ci avec son ami Iggy Pop.
Et vers 3h du matin, je vois arriver dans le studio David Bowie, suivi d'Iggy Pop. Et David fait des roues dans le studio. Et il dit à Jimmy, c'est le plus grand studio de rock'n'roll du monde.
Pendant ce séjour à Hérouville, fin 76, David Bowie conçoit et enregistre en partie un nouvel album qui sort en janvier 77. Cet album constitue la première étape de sa trilogie d'albums à venir, improprement appelée Trilogie berlinoise. En effet, cela se sait peu, mais c'est bien en France, à Hérouville, que Bowie a conçu le premier opus de cette trilogie, l'album Low.
The color of my room, where I will live. Blue, blue. I will sit right down, waiting for the gift of sound and vision. And I will sing, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude, over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision?
Quant à Iggy Pop, sous la houlette de David Bowie, il enregistre durant cette période à Hérouville l'album The Idiot, qui sortira en 1977. Dans cet album, on trouve notamment le titre China Girl, co-écrit par Bowie, et que ce dernier reprendra à son compte 6 ans plus tard pour en faire un tube planétaire. Nous sommes donc au début de l'année 1977. De l'autre côté de l'Atlantique, le groupe des frères Gibb, les Bee Gees, est un peu en perte de vitesse commerciale. Leur maison de disques paye alors aux Bee Gees 3 mois de résidence de création au château d'Hérouville afin qu'ils retrouvent un peu d'inspiration. Une semaine après leur arrivée au château, le manager des Bee Gees leur téléphone depuis New York. Il leur signale qu'il vient d'acquérir les droits d'une histoire, celle d'un jeune ouvrier qui oublie sa condition sociale tous les samedis soirs en devenant en boîte de nuit un éphémère roi du disco. Les Bee Gees sont alors sommés d'écrire 5 titres qui seront intégrés à la bande-son de cette histoire puisqu'elle va être adaptée au cinéma sous le nom de Saturday Night Fever. Les 3 frères Gibb s'exécutent sans avoir lu une seule ligne du script. Ils écrivent, composent et enregistrent 5 titres à Hérouville. How Deep Is Your Love, If I Can't Have You, More Than A Woman et Night Fever. Et au moment d'enregistrer le 5e titre, Stayin' Alive, le batteur des Bee Gees tombe malade et il est trop tard pour le remplacer. Le technicien du studio a alors l'idée de recourir à la technique du looping en reprenant le même enregistrement de batterie de Night Fever. Sans le savoir, il vient d'inventer la batterie échantillonnée, la boîte à rythme. Pour terminer Stayin' Alive, les Bee Gees décident d'enregistrer les chœurs et la plupart des voix du morceau, non pas dans le studio, mais carrément dans l'escalier du château d'Hérouville, car ils en trouvent l'acoustique et la réverbération tout à fait exceptionnelles. Stayin' Alive venait de prendre vie, le reste appartient à l'histoire. Nous sommes maintenant en 1978. Michel Magne a quitté Saint-Paul-de-Vence et il est retourné vivre à Paris dans un petit duplex avec Marie-Claude et leur fils. Le souvenir de son ancienne vie de folie à Hérouville le mine toujours ainsi que l'échec de cette aventure personnelle tellement hors du commun. Il va enchaîner durant cette période de nouvelles phases de dépression et même quelques séjours en maison de repos. En juin 1979, Michel Magne a finalement perdu tous ses procès. Le château d'Hérouville est vendu aux enchères. Le nouvel acquéreur du château continuera de louer les lieux à l'ingénieur du son Laurent Thibault pendant encore 6 ans. En 1980, Laurent Thibault accueille à Hérouville un jeune chroniqueur du magazine Rock'n'Folk, Patrick Coutin. Celui-ci veut se lancer dans la chanson. Il y passera comme un météore.
J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau, le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage.
En 1981, c'est Charles-Élie Couture qui vient passer quelques temps à Hérouville avec Laurent Thibault pour y créer deux de ses albums les plus fameux. Il reviendra de nouveau au château en 1983 pour donner naissance à la bande-son du film de Claude Berry, Ciao Pantin, avec Coluche. Mais en 1981, Charles-Élie Couture enregistre tout d'abord à Hérouville l'album Pochette Surprise, qui sort en février, et il en profite pour finaliser au château les morceaux de son album suivant, Poème Rock.
Un avion sans herbe, j'ai chanté toute la nuit, j'ai chanté pour celle qui m'a pas cru toute la nuit. Et même si je peux pas m'envoler, j'irai jusqu'au bout. Ah oui, je veux jouer, même sans les atouts.
En 1982, Michel Magne sort d'une nouvelle cure de repos quand son vieil ami Robert Hossein fait appel à lui pour la musique de sa version filmée des Misérables, d'après Victor Hugo, avec Lino Ventura et Michel Bouquet. Dans cette partition des Misérables, Michel Magne compose notamment un morceau de musique sacrée très inspiré de Bach et Mozart, un moment assez crépusculaire.
Le Requiem des Misérables, c'est l'auto-requiem de Magne. C'est Magne qui pressent sûrement que le temps lui est compté et que, quelque part, le grand compte à rebours a commencé.
Il a écrit toute une messe complète. Tout n'est pas dans le film de Robert Hossein. Mais il a écrit son Requiem et je croyais que c'était justement pour lâcher prise avec le château d'Hérouville. Eh bien non.
Michel Magne reste littéralement obsédé par ce château qui ne lui appartient plus et ce rêve qu'il y a construit, trop grand pour lui. En 1984, Magne touche le fond. C'est la dernière étape de ses déboires avec la justice. Il est mis en liquidation judiciaire personnelle. Provocateur, flambeur, farceur, farfelu, en même temps que lyrique et romantique, Michel Magne aura mené sa schizophrénie au bout du possible.
Je suis les deux. Je suis un romantique et je suis un farfelu, et pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que les véritables romantiques sont des farfelus, je pense, parce que ça va très bien ensemble. Ce sont deux contrariétés, ce sont deux contradictions qui s'opposent et en même temps qui se complètent. J'espère rester toute ma vie un farfelu et j'espère rester toute ma vie un romantique.
En cette même année 1984, c'est le réalisateur Francis Leroy qui demande à Michel Magne d'écrire la musique de son film érotique « Emmanuel IV ». Énorme succès au box-office depuis 1974, le phénomène de société Emmanuel en est 10 ans après à son 4e opus au cinéma. Magne y fait suite à Pierre Bachelet, Francis Lay, puis Serge Gainsbourg, qui ont successivement signé les musiques d'Emmanuel 1, 2 et 3. Michel Magne tente d'oublier ses ennuis pendant quelques temps, en s'associant à ce projet toujours un peu sulfureux à l'époque. Et comme il estime que libération sexuelle égale libération musicale, la partition d'Emmanuel 4 sera audacieuse et sophistiquée. Elle contiendra à la fois des slow langoureux typiques des années 80, quelques pépites exotiques et un hommage jazz baroque à Jean-Sébastien Bach. Magne, toujours provocateur, l'a intitulé « Bacchanal ». En deux mots, « Bacchanal ». Cette musique d'Emmanuel IV sera la dernière de Michel Magne. En effet, le 19 décembre 1984, il annonce à son épouse Marie-Claude qu'il part se reposer quelque temps au Club Méditerranée. En réalité, il prend la route de Pontoise, s'arrête à Cergy et s'installe dans une chambre du Novotel, tout près du tribunal où avait été prononcée la saisie définitive du château. Il a avec lui un énorme dossier qui regroupe tous les papiers, factures, litiges, contentieux et actes judiciaires en lien avec le château d'Hérouville. Il a aussi une petite valise dans laquelle il a systématiquement déposé tous les médicaments contre la dépression qui n'a jamais ingurgité, mais précieusement conservé en cachette durant des années. Michel Magne regarde une dernière fois ce dossier, cette fichue pile de paperasse maudite, et avale suffisamment de cachets pour être sûr de ne plus jamais penser à son château perdu et à son rêve enfui. Il ne se réveillera plus. Hérouville n'est qu'à 2 kilomètres de là.
Le compositeur de musique Michel Magne s'est suicidé cet après-midi dans une chambre d'hôtel à Cergy-Pontoise. Michel Magne avait 54 ans, il a mis fin à ses jours en avalant des comprimés et on a retrouvé à son chevet le livre « Suicide, mode d'emploi ».
Dans l'année qui suit, en 1985, le nouveau propriétaire du château d'Hérouville, qui a en tête un projet immobilier, signifie son congé à l'ingé son Laurent Thibault, qui louait les lieux depuis 1979. Et le 25 juillet 1985, les studios d'enregistrement sont fermés une nouvelle fois. En 15 ans, de 1970 à 1985, de Michel Magne à Laurent Thibault, plus de 250 albums ont été enregistrés dans ces studios. Et plusieurs d'entre eux comptent parmi les plus importants de l'histoire de la pop culture. Pendant la fin de la décennie 80, le studio Chopin est transformé en magasin de fournitures pour chevaux. L'aile nord du château d'Hérouville est découpée en plusieurs appartements. Au début des années 90, le studio réouvre de manière provisoire et chaotique, et jusqu'au début des années 2000, plusieurs entreprises de post-production louent à tour de rôle l'aile sud du château. C'est l'occasion pour Jean-Louis Aubert d'enregistrer à Hérouville son album Idéal Standard en 2005.
Plus loin, un peu plus loin, au-delà des mers, un peu plus loin, ailleurs. Puisqu'on a pris le temps, on tient à la distance, puisqu'il y a des trains, toujours en partance, ce monde derrière le monde. Peut-être existe-t-il immobile. Il y a un monde ailleurs. Pris le temps, on tient à la distance.
Mais c'est plutôt ce fonctionnement minimal et discontinu du studio qui ne tient pas la distance. Après 2005 et pour les 10 ans qui suivent, le château d'Hérouville est de nouveau complètement abandonné. Il recommence même à tomber en ruine par endroits. Le parc redevient peu à peu une jungle en friche. Mis en vente en 2013, le château est finalement racheté en 2015 par un trio français, dont deux ingénieurs du son, Jean Taxis et Thierry Guaraccino.
Je pense qu'il faut respecter l'histoire du château, mais qu'il faut aussi construire notre propre histoire avec ce lieu.
C'est-à-dire que le château était un endroit novateur dans les années 60-70, et il ne peut pas devenir un musée qui se contente de mettre en vitrine le côté novateur qu'il a été avant, et du coup l'immobiliser dans le temps. C'est-à-dire que le ressenti des ingénieurs extérieurs dont on parlait tout à l'heure, nous on l'a déjà ressenti dès qu'on a commencé pour la première fois à poser des micros ici, en se disant « Ah mais en fait le son est le même dans toute la pièce, on peut bouger dans la pièce, le son ne change pas, on peut s'éloigner les micros, on perd rien fréquentiellement, enfin bon, des trucs d'ingénieurs. »
Le château d'Hérouville de demain, je dirais que ça serait un lieu ouvert comme ça l'était à l'époque. À part qu'on a changé d'époque, donc ça sera pas la même chose évidemment.
C'est un endroit qui a quand même un impact visuel, on s'est rendu compte de ça à Hérouville, donc c'est pas forcément que auditif et que musical, il peut y avoir quelque chose par rapport à l'image. Tous les gens qui viennent enregistrer ici veulent faire souvent des films ici où on met en scène le château.
Le truc qui est quand même super important par rapport à l'époque, c'est que ici, on est au calme.
Les studios Georges Sand et Chopin ont été rénovés et un troisième studio a été aménagé dans l'ancienne salle de bal du château. Depuis 2018, des concerts live sont filmés au château d'Hérouville et diffusés en coproduction avec la chaîne de télévision Arte. Ils sont déjà venus Sting et Shaggy, Mélodie Gardot, Gregory Porter, Metronomy ou Assaf Avidan. Les derniers en date à être venus en session live à Hérouville sont les deux membres du groupe Sparks. Ils ont invité pour l'occasion Catherine Ringer à venir chanter avec eux le titre que les Sparks avaient enregistré avec les Rita Mitsouko en 1988, Singing in the Shower. Les Sparks nous disent leur émotion de venir pour la première fois dans un lieu mythique où tant d'albums célèbres ont été enregistrés. C'était en novembre 2022, dans le studio d'Hérouville ressuscité.
Well, we know that Chateau d'Hérouville is a famous studio where a lot of, you know, famous albums have been recorded, and we haven't been there ever, so we're incredibly excited to be playing there.
It was only a lover's game. Now we're trapped in the one of our dreams. All the same as the evening rain. All the same as the sound of the sea. We're feeling clean, a little crowded as we're singing in the shower tonight. Well, we could stay here a million years, never knowing the world and its games. Red hot water dissolves the fear, red hot kisses drive us insane. I wouldn't worry about it.
Hérouville, un château où les plus grandes stars de la musique des années 70 ont trouvé l'inspiration. Michel Magne a payé de sa vie ce rêve flamboyant du premier studio français de résidence d'artistes dans ce site exceptionnel. Aujourd'hui, presque 40 ans après sa mort, son rêve, son utopie musicale au cœur de la campagne, finalement, se poursuit tant bien que mal. En 1975, Michel Magne était sorti temporairement de son exil à Saint-Paul-de-Vence pour revenir une dernière fois à Hérouville. Il voulait finaliser l'album d'une commande venue des États-Unis. Il a choisi de travailler sur cet album en collaboration avec Boris Bergman, futur parolier de Bachung ou Christophe, et avec le parolier-chanteur américain Artie Kaplan. Bien entendu, Magne réussira à contourner les directives de départ de la commande américaine pour créer avec Bergman et Kaplan un véritable ovni, supposé devenir un jour une comédie musicale. Ce sera finalement Moshe Mickey Crucifixion, un concept album pop psychédélique avec des paroles en français, yiddish, japonais, arabe et anglais et qui parle surtout de contre-culture américaine. Longtemps introuvable, cet album a été réédité en 2021. En conclusion de notre premier volet sur Michel Magne, je vous avais proposé Prophète, un titre extrait de cet album titre considéré aujourd'hui par certains comme le premier morceau slam hip-hop français. Un autre extrait de cet album, Spartacus, terminait la deuxième partie de notre triptyque sur Magne. Aussi, pour conclure aujourd'hui l'histoire de ce fou génial qu'était Michel Magne, je vous propose d'écouter Stay Put, un troisième extrait de cet album de 1975. C'était la dernière fois que Michel Magne venait enregistrer à Hérouville, dans ce château où il n'était déjà plus tout à fait chez lui. Un château dont il avait rêvé, qu'il avait rénové, dirigé, fait briller et rendu célèbre dans le monde entier. Un château auquel il a voué quasiment la moitié de sa vie et qui l'a mené à sa perte. Salut, Dr Schnock vous dit à la prochaine. Dr Schnock raconte, c'est aussi disponible en podcast sur le www.radio-mdm.fr.